les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Bonjour à tous. Comme chaque mois, je vous propose une réflexion philosophique à partir d'un problème contemporain analysé à la lumière des philosophes. Mais parfois, il ne faut pas s'attaquer au bruit énorme de l'actualité, notamment produit par les discours outre-Atlantique, et préférer des questions plus profondes sur lesquelles on peut prendre du recul. Je vous propose d'aborder celle-ci. L'être humain peut-il et doit-il cohabiter avec des animaux sauvages restés dans leur milieu naturel? Ces derniers ont-ils le droit, au sens juridique du terme, de défendre leur territoire face à la présence humaine? Le philosophe Baptiste Morisot, dans « Manière d'être vivant », édité aux éditions Actes Sud en 2020, défend une thèse à la fois simple et complexe. Pendant des millénaires, le monde occidental a développé une relation de domination avec les plantes et les animaux, d'exploitation même qui nous a conduits à vivre totalement séparés de ce monde, pour nous enfermer dans celui plus confortable, mais aussi plus aliénant, de la technique. Baptiste Morisot propose une nouvelle diplomatie pour ériger une harmonie entre nous et le reste du vivant. Le problème est clairement celui de la séparation. Nous vivons hors de la nature. Nous avons oublié qui elle était, quelle était sa logique. Baptiste Morisot écrit « Imaginez cette fable, une espèce fait sécession et déclare que les 10 millions d'autres espèces de la Terre, ses parentes, sont la nature. À savoir, non pas des êtres, mais des choses. Non pas des acteurs, mais le décor, des ressources à portée de main. Une espèce d'un côté, des millions de l'autre. Et pourtant, une seule famille, un seul monde. Cette fiction est notre héritage. » Croire que nous sommes supérieurs, différents des animaux, est une vaste illusion. Nous pouvons retrouver cette idée chez un autre penseur, Spinoza, philosophe néerlandais du XVIIe siècle qui écrivait dans l'Éthique, son ouvrage majeur, « La plupart de ceux qui ont parlé des sentiments conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire, car ils croient que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'il ne la suit. » Pour Spinoza, l'homme ne possède pas une nature différente de son environnement et des autres êtres vivants. Malgré notre culture et notre arrogance, nous sommes soumis aux mêmes lois que tous ceux qui vivent au dessein de la nature. Nos sentiments ne sont pas éloignés de ce que ressentent les autres mammifères. Baptiste Morisot reprend largement à son compte cette idée en dénonçant la tentation rituelle des hommes à doublement oublier. Oublier qu'il faut être attentif à la fois à la nature et à notre nature.
Bonjour les amis.
Bonjour, bonjour.
Tu as vu leurs muscles?
Ah, c'est impressionnant, hein.
Les villes sont une aberration. Là, j'ai l'impression de me retremper aux sources.
Je ne vois rien de plus mystérieux que la fertilité de la terre. C'est comme une mer inépuisable. Je suis émerveillé, François.
Il n'y a rien de plus beau que de nourrir les hommes.
Être attentif à notre nature, c'est respecter nos sentiments naturels contre une rationalité colonisatrice. Nous devenons des aliénés, c'est-à-dire des étrangers à notre propre nature. Face à cela, le philosophe français propose de redevenir un pisteur. Le pistage, au sens large d'une sensibilité enquêtrice envers le vivant, est une expérience très nette d'accès aux significations et aux communications des autres formes de vie, précise-t-il. Voilà tout un programme. Mais à quoi cela mène? Baptiste Morisot passe de longues semaines en montagne, faisant du ski de randonnée pour suivre les traces des loups. Mais nous, citadins modernes, aux prises avec nos soucis de transport, de nutrition, au supermarché du coin, de garde d'enfants et autres préoccupations périurbaines, que devons-nous faire?
Et elle court toute la journée, elle court de décembre en été, de la nourrice à la baby-sitter, des paquets de couches au biberon de 4 heures.
C'est là que le programme devient plus politique que philosophique. Politique au sens de la gestion du vivre ensemble. Nous devons tout autant, sur le plan collectif qu'individuel, prendre en compte ce qui nous entoure et cesser d'agir avec la nature à la fois comme si elle était différente de nous et juste notre possession. Le promeneur en forêt peut être à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. Et l'agriculteur doit pouvoir développer une nouvelle forme de diplomatie avec la nature qui produit ce que nous mangeons. Nous nous doutons du coup que Baptiste Morisot n'est pas le tenant d'une agriculture productiviste. Et il va même plus loin. les modes d'élevage agressifs réduisant l'animal à la passivité et l'obéissance peut se comparer avec l'esclavagisme qui a marqué pendant des siècles les relations humaines. Réduire l'autre à la médiocrité. Voilà, face à cela, il y a le modèle d'élevage des rennes par les Touvains en Sibérie, qui consiste à paradoxalement les maintenir à l'état sauvage pour leur permettre de garder leur vitalité.
On a poor young country boy, Mother Nature's son. All day long, I'm sitting singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see the waters rise. Listen to the pretty sound of music as she flies.
Très bien, mais nous ne sommes pas tous des éleveurs, ni même des agriculteurs. Nous pouvons souhaiter certes ce mode de relation à l'animal moins agressif, même si les professionnels de l'élevage souvent sourient de ces réflexions de bobos urbains, qui veulent toujours donner une dimension romantique à leur métier, sans rien y connaître et en y plaquant des jugements souvent hâtifs.
Ouais, je dis pas que vous avez tort, mais je dis pas non plus que vous avez raison.
Baptiste Morisot lui-même témoigne de son évolution lorsqu'il participa à l'expérience Conavis, qui consiste en une observation nocturne des loups sur le plateau de Canjuers, dans le Var. Et y compris que les relations entre troupeaux de brebis, chiens de berger et loups sont beaucoup plus complexes qu'on ne peut le croire. Il écrit « On arrive avec des savoirs et des ignorances, des aversions et des affinités, une mystification et une mythification du berger et ou un amour du loup. On reviendra presque diplomate d'un genre particulier, diplomate des interdépendances. » Nous voilà donc avec un livre de philosophie politique au sens noble du terme. Une volonté de modifier nos comportements et nos relations avec les autres êtres vivants, que ce soit les plantes, les arbres, les insectes ou les animaux. Cette diplomatie sur le modèle de ce qu'a essayé de faire Nelson Mandela en Afrique du Sud à la fin du siècle dernier, c'est-à-dire réconcilier les ennemis d'hier entre eux. Et c'est là que cette réflexion philosophique peut trouver son impasse. Pour qu'il y ait diplomatie, il faut qu'il y ait deux camps qui aient conscience à la fois de leur singularité, je suis différent de l'autre, et de leur intérêt, j'ai besoin de vivre en paix avec l'autre. Or, force est de constater que les considérations humaines sont asymétriques. Rien ne prouve que les animaux, les insectes et les plantes ressentent ce besoin de diplomatie. Notre présence est pour eux sans doute un fait. Mais saisir ce fait veut-il dire qu'ils en ont une conscience réflexive, tout comme nous? Sont-ils capables de le rationaliser?
La pieuvre est doté d'une intelligence remarquable. En moins de 10 minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture. C'est ça ton intelligence remarquable? Bah viens, on laisse les pieuvres construire l'iPhone 10 alors! Pourquoi on se casse la tête? L'intelligence est remarquable! C'était les élections cette année en France! On aurait dû voter pour une pieuvre en fait! On est bêtes! Je vais offrir une pieuvre à ma mère. Elle n'y arrive jamais à ouvrir le pot de confiture.
Ce qui différencie l'homme des autres êtres vivants, c'est l'intentionnalité, c'est-à-dire le fait d'être capable d'avoir une vision du monde partagée avec ses semblables, qui dépasse ce simple vécu subjectif et qui peut lui donner du sens. Les différents rites culturels et religieux font partie de cette intentionnalité. Le paradoxe de l'être humain est que nous sommes humains justement parce que nous sommes capables d'un décentrement par rapport à nous-mêmes. Nous pouvons considérer l'autre dans sa spécificité. Et cela nous donne une responsabilité, protéger les animaux, les insectes et les plantes. C'est là le travail du monde humain. L'antispécisme, qui considère qu'il y a une forme de racisme dans l'exploitation du monde vivant, est donc philosophiquement dans l'erreur, même s'il permet de comprendre sous un jour nouveau la réalité de nos relations avec le monde vivant. L'homme n'est pas un animal comme les autres, et tous les vivants n'ont pas à avoir les mêmes droits. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être protégés par la loi. Bien au contraire, que ce soit la manière du diplomate, comme le prône Morisot, ou celui de l'intentionnalité juridique, l'homme doit protéger le monde des vivants en instaurant des règles basées sur le respect des mutuelles singularités. L'homme est-il un animal différent des autres ? À la fois oui et non. Oui, par sa capacité à rationaliser sa perception du monde et à construire un ordre juridique. Et non, de par l'expérience sensible et corporelle du monde, que nous ne devons plus oublier. L'antispécisme offre ainsi un moment intéressant à penser. Il pointe du doigt ce qui doit être pensé, nos relations avec le monde vivant. Mais ce sera une philosophie insuffisante si elle refuse de penser toute la complexité de la réalité humaine.
Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire.
Ouais, bien sûr.
Il tire.
Et le bon chasseur ?
Le bon chasseur, c'est un gars, bon bah il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais.
Bah c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais. Couvert de brume, j'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus les temps. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages.
Cette chronique et quelques-unes supplémentaires seront éditées dans un livre prévu en 2025. Vous pouvez aussi les retrouver sur ma chaîne YouTube intitulée « Chronique par Mont et par Vaux ». Un premier recueil édité en 2023 aux éditions BOD est toujours disponible sur toutes les plateformes et les bonnes librairies. Mais en attendant, n'oubliez pas que si RPH peut accueillir ses chroniques, c'est parce que c'est une radio associative non commerciale qui vit notamment grâce à des subventions publiques et aux nombreux bénévoles. La menace de voir ces subventions à l'expression radiophonique peut revenir à tout moment en cette époque de restrictions budgétaires. Je remercie RPH Sud et Radio Pays d'Hérault pour rendre possible ces petits moments de philosophie, et plus particulièrement Solène à la prise de son et à l'aide au montage. Et je laisse le dernier mot à Jacques Higelin.
Pas, surtout ne te...